Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, au cours des dernières semaines, nous avons fait une série d'études sur les origines. Franchement, cela m'a alerté sur notre société, et peut-être sensiblement plus encore que par le passé. Et je pense qu'il est sûr de dire que l'affirmation selon laquelle l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit de l'évolution est le plus complexe, sophistiqué et élaboré des mensonges de l'existence. Cela induit volontairement en erreur le monde entier. Cela est cru par la majeure partie de l'humanité, tout au moins dans le monde occidental. Et même si cela est impossible et irrationnel, cela n'en est pas moins perpétué avec force et conviction académique. La théorie de l'évolution moderne a demandé et presque reçu une reconnaissance universelle dans le monde. La théorie selon laquelle personne n'a créé l'univers tel qu'il est, mais qu'il s'est créé lui-même par chance, et qu'il a évolué à travers de constants changements, mutations et transitions, qui l'ont fait passer de la simplicité à la complexité, par un processus totalement imaginé par l'esprit humain. Et je suppose que nous nous attendions à ce que ces gens qui rejettent Dieu, ces gens qui rejettent la Bible, ces gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, qui ne le connaissent pas, ces gens qui aiment le péché, ces gens qui rejettent le bon sens et la morale. Nous nous attendions à ce que ce type de personne soit heureuse, avec cette commode explication de la façon dont sont apparues les choses. Et je suppose que c'est pour cela qu'il est si choquant de voir que ce mensonge qu'est l'évolution a dominé la communauté chrétienne évangélique de même. Théologiens, exégèses et commentateurs de la Bible ont trouvé nécessaire de prendre la simple explication de la création écrite dans Genèse, chapitre 1, et de tout simplement la nier. Je lisais cet après-midi un commentaire bien connu et établi sur le livre de la Genèse, dans lequel c'est précisément le point de vue de l'auteur, qui dit que cela ne veut pas dire ce qui est écrit. Dieu ne voulait pas réellement dire qu'il a fait tout ça en 6 jours. Il a certainement voulu dire quelque chose d'autre, puisque la science nous a prouvé que cela ne pouvait pas avoir été fait ainsi. Franchement, ce n'est pas facile d'insérer l'évolution dans Genèse, chapitre 1. C'est même une tâche vraiment difficile pour n'importe quel commentateur ou exégète, parce qu'il n'y a absolument rien dans cette partie de l'Écriture, ou dans n'importe quelle partie dans la Bible, qui autorise une interprétation aussi déplacée que l'évolution. Il n'y a absolument rien dans les chapitres 1, verset 1, à 2, verset 3 de la Genèse, qui accrédite de quelque manière, forme ou aspect, l'évolution. En conséquence, pour imposer l'évolution au chapitre 1 de la Genèse, les gens doivent nier le simple, franc, indubitable et clair fait historique qu'est la création. Et ils doivent requalifier cette création comme allégorie ou mythe ou légende ou style littéraire poétique. Ils font ça pour adapter la Bible à l'évolution. Irrationnel, athée et impossible. Et encore une fois, il n'y a rien dans le texte pour permettre à qui que ce soit de conclure à une allégorie. Je vous le dis, il n'y a rien de poétique dans le texte hébreu. Rien qui ressemble à un mythe ou une légende. Ils inventent donc ces choses pour insérer l'évolution athée dans les Écritures. Et vous vous demandez, pourquoi ils font ça? Pourquoi les gens qui se disent chrétiens font ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour être accepté dans le milieu universitaire, c'est très important, si vous êtes dans le cadre universitaire, si vous êtes dans un contexte éducatif, que vous ne soyez pas créationniste, si vous voulez maintenir votre position, si vous voulez garder votre job. Deuxièmement, les gens font ça parce qu'ils ignorent tout de la science véritable. Ils ne comprennent pas vraiment la science et ce qu'elle englobe ou n'englobe pas. Et ils ont tout simplement été trompés par la science, induits en erreur. Et troisièmement, je crois qu'ils ont pu être contraints de la même façon que Darwin l'a été, par les illusions des apparences. Darwin a développé tout son principe à partir d'observations illusoires, qui n'ont rien à voir avec l'ADN, rien à voir avec la génétique, rien à voir avec ce qui se passait réellement. C'est pourquoi, intimidé par la communauté universitaire, intimidé par la science erronée, et quelque part intimidé par les constats illusoires qui leur ont été transmis, ils acquiescent et adhèrent à l'idée d'évolution, basée sur l'idée d'uniformité. C'est ce qu'on appelle le concept uniformitarien. Pourtant, la Bible n'affirme rien de cela, rien de ces illusions. Dans 2 Pierre, chapitre 3, il est dit qu'il viendra des moqueurs, et que ces moqueurs diront « Depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Et ces moqueurs, qui réfutent principalement le retour du Seigneur, disent que rien ne change. Tout se déroule exactement à la manière uniformitariste. Rien ne change. Ils reconnaissent manifestement que la création. Mais ils disent que depuis la création, rien n'a altéré le processus uniformitarien. Mais le verset 5 nous dit « De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Et ils se réfèrent à la création ici, à travers laquelle, dit-il, le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Donc ces gens, qui soutiennent que tout a toujours évolué de cette manière depuis le commencement, ont oublié que les cieux ont été créés il y a longtemps et que la terre a été tirée des eaux et formée à partir d'elle, et qu'à un autre moment dans l'histoire, elle a été détruite par le déluge. En d'autres termes, Pierre pointe du doigt le fait que rien n'a été constant depuis le début comme le prétend le processus uniformitarien, mais qu'il y a plutôt eu deux périodes cataclysmiques. La première étant la création et la seconde le déluge universel. Il y a eu d'immenses altérations planétaires, comme vous le savez. La création elle-même était un cataclysme. À l'origine, les cieux existaient et la Terre a été formée à partir de l'eau et par elle. Nous reprendrons ce point plus en avant lorsque nous reviendrons au texte de la Genèse. Il y eut un temps où la totalité de la surface du globe fut détruite, inondée par les eaux, ce qui a eu un impact cataclysmique immense sur la Terre. Cette Terre ne s'est pas développée de manière uniforme. Au contraire, deux immenses cataclysmes ont affecté sa condition actuelle, l'un étant la création elle-même et l'autre étant le déluge. Les uniformitariens affirment que les strates que l'on voit dans les roches, les strates de sédiments, les fossiles et la datation chimique géologique basée sur l'uniformité attestent d'une Terre qui aurait des billions d'années. Au début du XIXe siècle, la thèse principale des uniformitariens était que le présent est la clé du passé, c'est-à-dire l'idée que tout s'est toujours déroulé de la même manière pour arriver à aujourd'hui, idée popularisée par James Hutton et Charles Lyell, qui à leur tour ont influencé Darwin. La théorie uniformitarienne est la croyance selon laquelle l'origine et le développement de toute chose peut être expliqué exclusivement en termes de lois naturelles et de processus encore actifs aujourd'hui. La théorie uniformitarienne a été le socle de l'histoire géologique moderne et est responsable de la conviction répandue selon laquelle la Terre serait âgée de billions d'années. Les uniformitariens insistent sur le fait que toutes les données géologiques et leur formation autrefois attribuées à des cataclysmes géologiques peuvent être à présent expliquées de manière satisfaisante par un simple processus d'évolution sur une très longue période. Voilà en gros leur point de vue. C'est ce que Scott Hulse nous donne comme définition dans l'effondrement de l'évolution. Pourtant, les créationnistes ont réfuté ça, disant que les preuves géologiques ne prouvent pas l'uniformité, mais le cataclysme et en particulier le relit de la Terre qui évoque le déluge massif universel, c'est-à-dire un cataclysme en lien avec l'eau. Et lors de la création, la Terre était littéralement submergée par les eaux. Avant sa refonte cataclysmique et au temps du déluge, il y a eu une autre inondation qui a recouvert la Terre. Et encore une fois, cela a eu un impact immense sur la création. Deux théologiens et scientifiques bien connus, Henry Morris et John Whitcomb, ont réuni des preuves à partir de processus naturels connus, tels que la traînée hydrodynamique de la crue, ou la démonstration de la nécessité d'une crue planétaire pour expliquer les structures géologiques actuelles de la Terre, qui ne peuvent être expliquées par le lent processus d'évolution actuelle. Sincèrement, mes amis, la science, la vraie science, ne peut pas être du côté des évolutionnistes. Les phénomènes géologiques répandus tels que la forte prépondérance des roches sédimentaires et leur formation à travers toute la planète, incluant les coquillages, au sommet des plus hautes montagnes, la rapide, presque soudaine apparition de gisements fossiles et la découverte de cimetières fossiles de taille et de profondeur très conséquents tout comme la formation de gaz et de charbon, par pressurisation, tout pointe vers une catastrophe aqueuse, pas vers un long processus naturel. Et de plus en plus d'études récentes le confirment. Scott Hulse résume certains de ces éléments de preuve, et je le cite brièvement. Les créationnistes maintiennent que les principes uniformitariens ne peuvent tout simplement pas prendre en compte la plupart des caractéristiques géologiques majeures et leur formation. Par exemple, le plateau tibétain, qui est composé de dépôts sédimentaires épais de plusieurs milliers de mètres, est situé actuellement à une altitude de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La formation rocheuse de Karo, en Afrique, renferme environ 800 billions d'animaux vertébrés. Le lit d'os fossile de Californie contient à peu près 1 milliard de poissons sur une aire de 6438 mètres carrés. Le concept uniformitarien est tout aussi incapable d'expliquer la formation du plateau de Columbia, au nord-ouest des États-Unis, un incroyable plateau de lave épais de plusieurs milliers de mètres, s'étendant sur une surface de 322 000 mètres carrés. L'uniformitarisme échoue également à donner une explication plausible quant aux concepts géologiques importants tels que la formation des montagnes. Et cela continue encore et encore. Je ne vous ennuie pas plus avec ça. Tout ceci, un changement soudain et radical, un enfouissement rapide et une transformation en pierre sont essentiels à la formation et à la préservation des fossiles. La seule façon de trouver des coquillages au sommet des montagnes, à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, est d'admettre qu'elles ont été submergées à un moment donné. Douglas Kelly écrit dans son livre « Création et changement » l'hypothèse des uniformitariens, selon laquelle des millions d'années d'évolution géologique extrapolées à partir de notre présent, ce lent processus naturel, aurait été nécessaire pour expliquer des formations telles que le Grand Canyon américain, par exemple, suscite de graves interrogations quant à l'éruption du mont Sainte-Hélène de l'État de Washington le 18 mai 1980. Une force massive équivalente à 20 millions de tonnes de TNT a détruit 400 km² de forêt en 6 minutes, métamorphosant le visage de la montagne et creusant des cratères de boue et de roches, laissant des formations pas si éloignées de celles de la taille du Grand Canyon. Des études récentes du phénomène survenu au mont Sainte-Hélène indiquent que si l'on essayait de dater ces formations, apparues en 1980, à la façon des uniformitariens, des millions d'années auraient été nécessaires. Ironiquement, l'une des pièces maîtresses sur laquelle s'appuie la chronologie des uniformitariens, la colonne géologique, si on la regarde de plus près, témoigne en réalité du catastrophisme. Et il continue. Il y a d'autres indicateurs intéressants d'un jeune univers. L'un de ceux que je trouve fascinant est la question de la poussière de la Lune. Avant que l'homme n'atteigne la Lune, il était évident pour les scientifiques partisans du paradigme selon lequel la Lune, qui aurait environ 3,5 billions d'années, aurait une très épaisse couche de poussière à sa surface. Un écrivain, Raymond Arthur Littleton, astronome et consultant pour le programme spatial américain, écrit ceci. La surface de la Lune est directement exposée aux rayons du Soleil, et la puissance des ultraviolets et des rayons X peut détruire la couche superficielle des roches exposées et les réduire à l'état de poussière, en à peine quelques 0,002 centimètres par an. Mais même cette faible quantité, en considérant le vieillissement de la Lune, aurait pu être suffisant pour former une couche de poussière épaisse de plusieurs kilomètres sur sa surface. On sait maintenant que lorsque l'astronaute Neil Armstrong a lu ceci, il était très inquiet à l'idée de sauter hors de la fusée et de se retrouver coincé à jamais dans un marais de poussière étouffant. Pourtant, il n'a rencontré que très peu de poussière. Si les calculs indiquant le taux de poussière accumulé étaient exacts, il n'y aurait pas 1 billion d'années de couche de poussière. Il n'y en aurait même pas une couche d'1 million. En fait, il y en aurait seulement une couche de quelques milliers d'années, si la poussière était formée par les ultraviolets du Soleil. Un autre phénomène intéressant concerne les gisements de pétrole. Lorsque les poches de pétrole sont forées en profondeur, l'immense pression dans le réservoir propulse le pétrole en une sorte de geyser crachant. L'immense pression qui maintient la poche de pétrole est considérée par certains scientifiques comme le témoignage d'une Terre récente. Un scientifique du nom de Dickey et certains autres ont publié les résultats de leurs recherches dans un ouvrage appelé « Science ». Voilà ce qu'ils écrivent. Les études prouvent que toute pression accumulée devrait se dissiper, jaillissant sous forme de roche après quelques milliers d'années. La pression excessive accumulée à l'intérieur des gisements de pétrole et la formation des roches dans lesquelles le pétrole est piégé réfute donc la notion selon laquelle l'orage est de l'ordre de millions d'années et appuie la thèse selon laquelle ils sont beaucoup plus récents, de l'ordre d'une dizaine de milliers d'années. J'aime vraiment l'exemple suivant. Henry Morris a écrit un livre qui s'appelle « Cosmologie biblique et sciences modernes » et le chapitre 6 concerne la population mondiale et la chronologie biblique. Avec force détail et l'appui d'équations mathématiques, il démontre pourquoi le taux de population mondiale est une indication de l'âge de la Terre. Dans un ouvrage plus récent titré « Le créationnisme scientifique », il démontre que la croissance démographique atteint un taux extrêmement précis d'un 0,5% par an, ce qui est un quart de notre taux actuel. Mais pour le bénéfice du doute, divisons ce taux à un quart et disons que la population augmente d'un 0,5% par an. Cela mènerait au taux de population mondiale actuel en seulement 4000 ans. Et selon la chronologie biblique, c'est exact, puisqu'il y a 4000 ans, il y a eu le déluge. Il écrit « Il commence à être incroyablement évident que la race humaine ne peut être extrêmement ancienne. La chronologie biblique traditionnelle est infiniment plus réaliste qu'une histoire de l'humanité de plusieurs millions d'années soutenue par les évolutionnistes. » Il ajoute « S'ils avaient raison, et que la Terre avait des millions d'années, la population mondiale serait maintenant de 10 puissance 5. Et si nous étions capables de coloniser toutes les autres planètes de l'univers et d'y construire de vastes villes dans la totalité de l'espace interstellaire, il est prouvé que nous ne pourrions accueillir plus de 10 puissance 100 humains dans l'univers entier. Considérez la question du point de vue de la science honnête et voyez toutes les preuves d'une Terre récente. Nombre de choses, telles le chronomètre physique, les produits de mesure chimique utilisés pour établir l'âge des cieux et de la Terre. Vous pouvez y voir la vraie science, qui vous donnera une réponse claire, si vous comprenez cet unique fait. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé comme il est, il l'a créé abouti, il l'a créé tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le premier jour, il fit la lumière et les ténèbres. Le second jour, il fit les cieux. Le troisième jour, il fit la terre. Le quatrième jour, il fit les puissances célestes qui donnent la lumière. Le cinquième jour, il fit les poissons et les oiseaux. Et le sixième jour, il fit les animaux terrestres et l'homme. Et il les fit tous aboutis, complètement développés. Il n'a pas créé de graines et de cellules. Il n'a pas émis une seule petite cellule pour qu'elle se divise encore et encore durant des millions d'années. Il n'y avait pas de graines, pas d'embryons et pas d'œufs. Il y avait des poulets adultes. Il n'a pas débuté avec une lumière partielle ou du gaz partiel, ou un champ électromagnétique partiel, ou une énergie nucléaire partielle. Il a créé un univers complètement abouti, tel qu'il est encore aujourd'hui. Lorsque Adam a été créé, il ne l'a pas créé en tant qu'embryon. C'était un homme adulte. Tout était à maturité, abouti. La création cataclysmique de l'univers a résulté d'une création aboutie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si vous trouviez un chêne dans le jardin d'Éden et que vous étiez botaniste, vous pourriez prendre une petite hache et abattre ce petit chêne, et vous commenceriez à compter les cercles, et selon le nombre de cercles qu'il contient, vous estimeriez son âge à 400 ans. Mais en fait, il était âgé d'un an. Il a été créé en une seule fois. Et s'il y avait quelques aigles dans le ciel, ils auraient l'air d'avoir 30 ans, mais ils n'avaient qu'une journée d'âge. S'il y avait des éléphants vagabondants aux alentours, ils auraient peut-être l'air d'avoir 50 ou 60 ans. Mais dans les faits, ils n'étaient vieux que d'une journée. Et s'il y avait des montagnes autour, et que vous voyiez ces montagnes, vous pourriez considérer que ces montagnes et les canyons qui débordent et leurs vallées et les collines étaient formés par des années de vent, d'eau, d'éruptions et de séismes. Mais le fait est que tout a été créé en un jour. Et si vous leviez la tête vers les cieux comme Adam l'a fait, et que vous voyiez l'immensité incroyable des cieux au-dessus de vous, et que vous vous demandiez depuis combien de temps ils étaient là, la réponse est 48 heures. C'est comme lorsque Jésus a changé l'eau en vin. C'était instantané. Il a juste changé l'eau en vin, une création instantanée, en une fraction de seconde. Comme nous l'avons noté tout au long de ces exemples, l'évolution est impossible, parce qu'un temps où rien n'égale tout est impossible. Ce n'est pas seulement impossible, c'est ridicule. Il n'y a pas de forme transitive, ni de dévolution générique, pas d'évolution. L'altération dans les gènes ne peut être que négative. Elle ne peut qu'ajouter à l'entropie, à la seconde loi de la thermodynamique, et s'appauvrir, mais elle ne peut rien améliorer. Aucun code génétique ne peut créer d'évolution. Toute forme de vie est définie par la génétique qu'il possède au départ et rien de plus. Comme nous l'avons vu, la véritable géologie ne peut soutenir l'idée d'un monde pluriséculaire ou d'un monde en évolution. Les données sur les fossiles ne prouve en rien l'âge avancé. Cela prouve l'existence des grands cataclysmes, et ainsi de suite. Et je ne vous parle pas de tout ça juste parce que je demande à la science d'être honnête à propos du sujet, mais avec toutes ces données en tête. Reprenons la Bible dans Genèse 1 et disons clairement ce qu'il s'est passé. Comment l'univers est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Voilà comment. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les Hébreux n'avaient pas de mot pour le terme univers. Ils avaient une expression pour univers, et cette expression, c'est les cieux et la terre. Cela signifie tout simplement l'univers. Au commencement, Dieu créa bara, ex nihilo, à partir de rien, l'univers, sans matière préalable et sans énergie préalable. Dieu a créé l'univers entier. Cependant, Dieu n'a aucune origine. C'est pourquoi il dit dans Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui suis. Il est l'Éternel. Lui, l'Éternel, n'a pas toujours été le Créateur, mais à un certain moment de l'éternité, il est devenu le Créateur. À présent, demandons-nous à nouveau, comment a-t-il créé? Et nous avons la réponse. Par sa parole. Verset 3. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Verset 6. Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux. » Et au verset 9. Dieu dit, « Que les eaux. » Et ainsi de suite. Et Dieu créa, en matérialisant simplement sa parole. C'est comme ça qu'il a créé. Et quand a-t-il créé tout ça? Il a tout créé en 6 jours. Il y a environ 6 000 ans. Peut-être un peu plus. Mais certainement plus près de 6 000 ans que de 10 000 ans. Et à présent, la question à laquelle je n'ai pas répondu la dernière fois, pourquoi il l'a créé? Et bien sûr, la première réponse, c'est parce qu'il le voulait. C'est la meilleure et la plus réaliste des réponses. Et la prochaine question est pourquoi le voulait-il? Et la réponse à cette question est assez évidente. Il le voulait parce qu'il voulait montrer sa gloire, et la création lui a donné une autre occasion d'exposer sa gloire aux anges divins, tout comme à l'humanité, qui viendrait à apprécier sa grande puissance créatrice. Dans Apocalypse 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je vous l'ai dit, il l'a fait parce qu'il le voulait. Il l'a fait parce qu'il le voulait, et il désirait le faire pour la simple raison qu'éternellement en sa présence, il sera loué et glorifié pour cette immense manifestation de puissance créatrice, ce qui met sa majesté et sa gloire en exergue. Dans Ésaïe 43, verset 7, « Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Ésaïe 43, verset 21, il dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et au centre de la création, il a fait l'homme. Et pour aller un peu plus loin, il n'a pas seulement fait pour proclamer sa grande et glorieuse intelligence, son incommensurable pouvoir, son incommensurable sagesse, son incommensurable amour de la beauté et de la complexité, et pourtant celui de l'ordre et de la systématisation. Il expose tellement de sa nature dans la création. Mais la création lui a aussi permis, lui a donné l'opportunité de montrer à l'homme quelque chose qu'il n'aurait pas autrement pu montrer, c'est sa grâce et sa miséricorde. Vous pourriez dire qu'il l'a fait afin de fournir une épouse pour son fils. Je vous l'ai déjà dit, et j'avais l'habitude de penser que je n'avais jamais lu cela où que ce soit. Et ça vient juste de me frapper quand j'étudiais les Écritures, que Dieu un jour a dit à son fils qu'il l'a aimé avec un amour parfait, et dit « Je t'aime tellement que je veux te donner un cadeau, et donc je vais créer et je vais racheter l'humanité pour t'en faire une épouse, et je vais amener cette épouse à la gloire, et cette épouse sera revêtue de justice et de sainteté à jamais. » Et cette épouse portera ton image, et cette épouse te louera, t'adorera, et te servira au siècle des siècles. Et c'est mon cadeau d'amour pour toi en tant que fils. Ce glorieux plan de Dieu de donner à son fils bien-aimé, le second membre de la Trinité, une expression d'amour éternel, d'amour divin, en lui accordant une humanité rachetée, qui réfléchirait sa gloire, et le servirait, et le louerait pour toujours. Quelle grande idée, quelle glorieuse idée! Et cela est lié au but de la création. Eh bien, je ne l'avais lu nulle part jusqu'à ce que je découvre, un peu décourageant, un écrivain du XIIe siècle, Richard de Saint-Victor. Dans son classique De Trinitat, il appréhende l'essentiel de cette énorme vérité. Il enseigne que l'infini Dieu le Père a tant aimé le Fils, également infini, qu'il a créé ex nihilo, un monde matériel fini, pour être peuplé de créatures à la ressemblance de son Fils, afin que, comme épouse du Fils, il puisse partager la béatitude de la vie divine d'une manière appropriée aux créatures finies, à l'image personnelle de Dieu. pour donner une telle épouse à son Fils, le Père éternel, a créé un univers entier, et en lui, un monde, qui n'avait auparavant aucune existence, comme le berceau et le foyer, où l'épouse serait élevée, tel un don extraordinaire du Père au Fils, exigé d'une création absolue à partir de rien. C'est ce qu'il a enseigné, et il avait raison. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En passant, au commencement, implique une réalité antérieure inexistante, le temps. Il n'existait pas avant que Dieu ne le crée. À un certain point dans l'éternité, Dieu crée l'univers par sa parole, y compris le temps. Le temps, ainsi que l'espace et la matière, sont des créatures et des serviteurs de Dieu qui les a créés.
Le temps est la créature de Dieu, et le temps a fourni le cadre approprié pour la création, du premier au sixième jour. Le temps n'est pas absolu, l'espace n'est pas absolu, et la matière n'est pas absolue. Et le temps, l'espace et la matière tels que nous les connaissons disparaîtront. Avant que le monde matériel n'existe, avant qu'il y ait de la matière dans l'espace, il ne pouvait y avoir de temps. Saint Augustin le dit ainsi. Avec le mouvement des créatures, le temps a commencé à suivre son cours. Il est inutile de chercher du temps avant la création comme si le temps peut être trouvé avant l'heure. S'il n'y avait aucune action d'une créature spirituelle ou corporelle, par laquelle l'avenir se déplaçant à travers le présent succéderait au passé, il n'y aurait pas de temps. Une créature ne pourrait pas bouger si elle n'existait pas. Nous devrions donc dire que le temps a commencé avec la création plutôt que la création a commencé avec le temps. Les deux sont de Dieu, car de lui et par lui et en lui sont toutes choses. Donc Dieu a créé le temps avec tout le reste. Le verset 1 énonce le fait général, puis les versets 2 à 31 le décomposent en étapes. Observons le premier jour. C'est vraiment passionnant. Nous voici au premier jour. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ou le premier jour, si vous voulez. C'est juste énorme. À ce moment-là, juste avant que le premier jour débute, nous découvrons la terre dans un état unique. Trois expressions sont utilisées pour le décrire. La terre était informe et vide.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces trois expressions nous donnent les conditions juste avant le premier jour de la création.
Prenons le premier, le plus connu. La terre était informe et vide. En passant, chaque fois qu'en hébreu le sujet vient avant le verbe, il est destiné à souligner quelque chose de nouveau à propos de ce sujet. Un hébreu pourrait traduire ceci de cette façon. Quant à la terre, elle était informe et vide. Vous avez cette nouvelle planète, et comme cette nouvelle planète qui est l'objectif, vous avez une saga de la rédemption géocentrique du premier jour jusqu'à la recréation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, telle que cette nouvelle terre qui était appelée Tohu wa bohu en hébreu. Maintenant, comment comprenez-vous Tohu wa bohu, forme et vide, sans forme ni vide? Eh bien, je sais ce que disent les commentateurs chrétiens. Alors je me suis tourné vers le commentateur juif, Umberto Casuto, et je me demande qu'est-ce que les juifs pensent de cela, que pensent les juifs érudits à ce sujet, et comment ont-ils défini l'étymologie de ces mots? Tohu signifie désert. Cela signifie un endroit dévasté. Cela signifie lieu inutilisé. Ebohu signifie vide. C'était un endroit vide, inutilisé. Ça a du sens. C'était un endroit vide, inutilisé. Pourrions-nous en apprendre davantage à ce sujet? Oui, nous pouvons, parce que Tohu et Bohu sont utilisés ensemble dans quelques autres passages de l'Écriture. Regardez Jérémie 4, verset 23, et c'est très édifiant. Nous avons ici Jérémie. Jérémie qui a vraiment mal au cœur dans le 23e verset. Parce qu'il est. Il est vraiment en souffrance. Au verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. C'est une période douloureuse dans la vie de Jérémie. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Pourquoi? Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Ce qui se passe ici, c'est la destruction de Juda. La destruction de Juda. Et le vieux Jérémie emprunte au chapitre 1 de la Genèse aussi, au verset 23.
Je regarde la terre, et devinez quoi? C'était le tohu-bohu. Voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Il emprunte le langage même de la Genèse pour décrire la condition de Judas sous la destruction dévastatrice qui lui a été apportée par son conquérant païen. Il ajoute en outre, « Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Juste une totale dévastation. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Il y a ce mot, désert. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Vous savez ce qu'il voit ici? Il voit une terre dévastée, par une armée étrangère, une terre brûlée, où les oiseaux ont fui la fumée et la dévastation, une terre où il n'y a plus âme qui vive. Ils ont été abattus, où ils ont été emmenés en captivité. » Alors Jérémie nous aide à comprendre ce que veut dire tohu et bohu. Il emprunte le langage de la Genèse pour décrire un endroit perdu et dévasté sans habitants. Il a perdu sa beauté d'antan, il n'a pas de forme, il n'a aucune attractivité, il est désolé et il est vide d'habitants en raison du massacre et de la déportation. La même phrase est utilisée dans Ésaïe aussi, chapitre 34 et verset 11. Il parle du jugement de Dieu venant sur les nations ici. Ésaïe nous dit au verset 1 du chapitre 34 « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. » Il parle donc de la dévastation qui va venir quand le jugement de Dieu tombera sur les nations du monde. Et au verset 11, il parle de certaines choses qui vont arriver aux animaux et ainsi de suite. Puis au verset 11, au milieu du verset, on y étendra le cordeau de la désolation, l'évocation de tohu, et le niveau de la destruction, et bohu. Ce sera un endroit désolé et il va être vide d'habitants. En fait, ces mots sont assimilés à un lieu dévasté, un lieu désolé sans habitants, dévastation et dépeuplement, sans aspect ni forme et sans habitants. Donc, quand vous voyez les mots tohu et bohu dans la Genèse, ce n'est pas un terme technique compliqué employé là. C'est juste le mot pour la dévastation et le néant. C'était un endroit vide et sans vie là-bas. C'est exactement ce que cela signifie. Peut-être la meilleure façon de le dire serait de dire que la terre était inachevée quant à sa forme et non peuplée. C'est exactement ce que cela signifie. Et c'est compréhensible juste avant que le premier jour ne débute. Les éléments étaient là, il y avait du temps, et il y avait de l'espace, et il y avait de la matière, mais ils étaient informes et non peuplés. Les éléments créés originaux mentionnés au verset 1, le temps, au commencement, les cieux, la matière, ou les cieux, l'espace et la terre, la matière, Dieu les a créés. Dieu les a créés par sa parole, mais ils étaient indifférenciés, non séparés, non organisés et inhabités. Dieu ne les avait pas encore façonnés, et Dieu n'avait pas peuplé le cosmos. Donc, vous avez les matières premières mentionnées au verset 1, le temps, l'espace, la matière. Ils sont décrits d'abord comme inachevés dans leur forme et non peuplés d'êtres vivants. Pour le second, nous obtenons une description plus précise. Le verset 1 dit « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et la raison en est que Dieu n'avait pas créé la lumière. Et jusque-là, à travers toute l'éternité, il n'y avait pas de lumière, pas de lumière créée, tout était ténèbres. La terre, alors informe, dans une certaine mesure, et inhabitée, est engloutie dans l'obscurité totale, absolue. Il n'y avait pas de lumière. Les ténèbres recouvraient tout. C'est ce qu'il dit, sur la surface d'eux. Il ne dit pas de la terre, mais de l'abîme. Eh bien, c'est intéressant. Cela évoque une autre question ici. Qu'est-ce que cet abîme primordial? L'abîme est un synonyme utilisé dans l'Écriture pour les eaux. En fait, regardez plus loin au verset 2. L'obscurité est sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait aussi sur la surface des eaux. Et ici, Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, définit l'abîme comme l'eau. Le mot abîme est utilisé comme synonyme des eaux. Vous pouvez le voir, par exemple, dans Ésaïe 51, versets 9 à 10. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la terre prise dans l'obscurité, qui, touchant la surface de la terre, touche la surface des eaux. Ainsi la terre est couverte d'eau. Toute la surface de la terre est faite d'eau. C'est un abîme, une mer. C'est un océan global et primordial, entouré par l'obscurité universelle. Cela est également mentionné dans le psaume 104, versets 5 et 6. Il est écrit
il a établi la terre sur ses fondements. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement, comme un manteau qui vous couvre. Le vêtement de la terre était de l'eau, et il est dit que les eaux étaient au-dessus des montagnes. La terre, encore informe, était littéralement couverte d'eau. En un sens, c'est comme un potier qui veut façonner un beau vase et ensuite le remplir pour l'utiliser. Il prend d'abord un morceau d'argile et le place sur la roue pour le mouler et l'adapter à son besoin. Donc, Dieu obtient d'abord la matière première, et c'est un mélange d'éléments couverts d'eau existant dans l'obscurité universelle, et ce, avant qu'il ne commence à le façonner. Et je pense que c'est ce que Pierre voulait dire dans 2 Pierre 3, verset 5. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre a été tirée de l'eau et formée par l'eau. Bien sûr, nous parlons de celle du déluge. Proverbe 8, verset 27 dit « Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, première chose, la matière est devenue sphérique. Dieu a donc créé cette boule de matière qui constituera la terre lorsqu'il l'a façonnée, engloutie par les eaux. » Et le troisième commentaire sur l'état de la terre avant le premier jour de la création est le plus remarquable. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aime ce mot, en mouvement. C'est le mot planer. Au-dessus de cette matière informe et inerte, engloutie dans l'eau et plongée dans les ténèbres, flottait l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, Dieu l'Esprit. Et cela indique une surveillance et un contrôle divin. Job 33, verset 4 dit « Le Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ce mot « planer » est un mot magnifique. Si vous voulez comparer son utilisation pour vous donner une analogie, vous pouvez vous référer à Deutéronome 32, verset 11. Il suffit de le noter pour le moment, et vous y trouverez qu'il est utilisé pour décrire les jeunes aiglons dans un nid et les jeunes aiglons incapables de se nourrir eux-mêmes, incapables de se défendre ou de se protéger eux-mêmes, incapables de survivre, incapables de vivre, incapables de se développer et de grandir, totalement dépendants des soins des parents qui planent au-dessus d'eux, leur fournissant de la nourriture, la protection, la chaleur, afin qu'ils puissent survivre, vivre, grandir et se développer. Et c'est précisément l'idée ici, parce que le même mot hébreu est utilisé pour évoquer le Saint-Esprit planant au-dessus de cette masse de matière non développée, sans forme et sans vie dans l'espace, couverte par l'eau, engloutie dans l'obscurité, et l'Esprit de Dieu plane au-dessus de la surface de cette terre, l'incarnation de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Écoutez, c'est un détail majeur dans les étapes de la création, et pas un mineur. Cela montre, une fois pour toutes, que la vision biblique du monde de Dieu est qu'il est directement impliqué dans sa création. Sa main n'est jamais absente de la mise en œuvre des éléments comme des matières. Sa présence est là, supervisant, planant au-dessus de tout ceci. C'est l'antithèse de ce déisme philosophique qui soutient que Dieu est comme l'initiateur de la création et de la mise en œuvre et s'en est éloigné, ou celle du dualisme théologique qui voit un écart entre un Dieu bon et spirituel et un monde mauvais et matérialiste. Mais vous avez plutôt le Dieu vivant, attentif, réfléchi, planant au-dessus des eaux, étant directement en charge de tout le processus de la création. Si vous parcourez la Bible, vous vous apercevrez que l'Esprit de Dieu est la source de toute vie. Par son Esprit, il a ordonné les cieux, est-il dit dans Job 26. Le psaume 33, comme nous l'avons noté, il y a une semaine nous dit « Le souffle de Dieu est en moi » et beaucoup d'autres versets des Écritures l'évoquent. Par la parole des cieux, par la parole du Seigneur, plutôt, psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel » et toute leur armée par le souffle de sa bouche, l'esprit de sa bouche, et beaucoup d'autres extraits des Écritures en parlent. Ainsi, l'Esprit de Dieu fournit l'énergie pour façonner, organiser et apporter la vie. C'est l'œuvre de Dieu. La première chose qui se produit au niveau créatif après l'énumération de matériaux est évoquée, dans le verset 3, lors du premier jour. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Maintenant, les scientifiques peuvent discuter, s'enfumer et bidouiller, et s'embrouiller pendant des décennies et des siècles à essayer de comprendre d'où la lumière est venue, alors que tout ce dont nous avons besoin est inversé. Il n'y avait pas de lumière. Dieu a dit « Que la lumière soit », et il y eut de la lumière. Celui qui était la lumière elle-même a créé la lumière par sa parole. Celui qui, selon 1 Timothée 6, verset 16, habite dans une lumière inaccessible, a commandé à la lumière d'exister
là où il n'y avait que des ténèbres. Et la lumière est venue, elle est apparue. De nouveau, Douglas Kelly dit « Le fait de parler de la lumière comme étant créée est la première d'une série de trois séparations accomplies par le Créateur, qui était essentielle pour faire du chaos un cosmos. Le premier jour, la lumière sépare le jour de la nuit. Le deuxième jour, le firmament sépare les eaux supérieures de la Terre, constituant une atmosphère ou un espace d'air vital. Le troisième jour, les eaux au-dessous des cieux sont recueillies dans les mers et ainsi séparées de la terre sèche. Ces trois étapes de séparation montrent la puissante main de Dieu façonnant et organisant la masse sombre et aqueuse pour en faire un magnifique jardin, un endroit adapté, esthétique pour les plantes, les animaux et l'humanité. Et, avec la création de la lumière, il a été établi une succession cyclique de jours et de nuits, des périodes de lumière et des périodes d'obscurité. Comme nous le verrons, ici, au verset 5, il appelait la lumière le jour et les ténèbres la nuit, et vous avez le cycle de la nuit et du jour. Cela signifie que la Terre a immédiatement commencé à tourner sur son axe, et qu'il y avait une source de lumière sur un côté de la Terre correspondant au Soleil, qui n'a été créé que plus tard, et qu'il y avait aussi des ténèbres de l'autre côté de la terre. Dieu a créé la lumière, et la lumière fut, simplement parce que Dieu lui a dit d'exister. Et je suppose que Dieu, comme un homme qui est venu pour organiser diverses choses qui étaient dispersées dans une pièce sombre, avant de faire quoi que ce soit d'autre, allume la lumière. Au verset 4, il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. » Or, cette déclaration est répétée dans les versets 10. 12, 18, 21, 25 et au verset 31. Tout ce que Dieu a créé était bon, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a créé était bon. Et pour terminer, il résume au verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Or, les œuvres du Créateur ne pouvaient être que bonnes. Ce n'est pas surprenant du tout. Tout ce qu'il fit était bon. Maintenant, Dieu, quand Dieu dit que c'était bon, c'est d'un niveau assez élevé. Dieu lui-même est la norme originelle de ce qui est bon, et dit que ce qu'il a fait est bon. C'est bon. La norme de ce qui est bon ne peut être que la sienne propre. Il y a longtemps, un homme nommé Novatien a saisi ce concept dans une déclaration sur Dieu, au IIIe siècle. Écoutez ce qu'il a écrit au IIIe siècle. Évidemment, cela a été traduit. Que pourriez-vous dire alors? Qui serait digne de lui? Il est plus sublime que toute sublimité, plus grand que toutes les hauteurs, plus profond que toute profondeur, plus clair que toute lumière, plus brillant que tout éclat, plus splendide que toute splendeur, plus fort que toute force, plus puissant que toute puissance, plus beau que toute beauté, plus vrai que toute vérité, plus endurant que toute endurance, plus grand que toute la majesté, plus puissant que tout pouvoir, plus riche que toute richesse, plus sage que toute sagesse, plus doux que toute douceur, mieux que toute bonté, plus juste que toute justice, plus miséricordieux que toute miséricorde. Toute vertu doit nécessairement être moindre que lui. Dieu est la source de tout. Quelle grande déclaration! La bonté incomparable de Dieu exige que toute la lumière, la terre ferme, les mers, les divers types de vie animale, tout ce qui existait, soit bon. C'était bon. La raison pour laquelle le mal existe n'est pas la faute de Dieu, mais à celle de la chute et de la rébellion de l'homme. C'est la corruption de sa création parfaite. Mais au commencement, tout était bon. Et le verset 4 dit « Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». C'est pourquoi Ésaïe 45 au verset 7 dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres ». Cela commence le cycle des jours. Il sépare la lumière des ténèbres et il crée la lumière, mais n'a pas détruit les ténèbres. Son désir en tant que créateur n'a jamais été que la lumière soit perpétuelle, pas du tout, mais que l'obscurité et la lumière fonctionnent consécutivement. Et ça, c'était bon, qu'ils fonctionnent consécutivement pendant des périodes données, dans un ordre cyclique immuable. Il l'a fait parce que cela convenait à son plan créateur, cela convenait à son plan de faire tourner la terre, d'avoir des périodes de lumière et d'obscurité. Et au verset 5, il les nomme. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et il en était ainsi. Et cela a toujours été. Depuis le premier jour, il y a eu de la lumière, et il y a eu des ténèbres. Il y a eu le jour, et il y a eu la nuit. Et ce cycle constant de lumière et d'obscurité, jour et nuit, a défini le caractère de cet univers et de cette terre depuis le premier jour. Et le verset 5 dit « Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Quand le jour a passé, la période allouée aux ténèbres vient. Elle a pour nom soir, et quand la nuit est passée, la période allouée à la lumière vient, et a pour nom matin. » Et avec cette explication, la Bible décrit la création du premier jour jamais créé. Et ce jour-là, qu'est-ce qui a été créé ? La lumière. La lumière ! Vous me dites, « Mais comment pourrait-il y avoir de la lumière sans le soleil ? Je ne sais pas. Si c'était écrit, alors je le saurais. Mais vous ne croyez quand même pas que Dieu ne pourrait pas créer la lumière, mais pourrait créer le soleil qui éclaire. C'est un premier jour assez spectaculaire, n'est-ce pas ? Juste au cas où l'on pourrait penser que ce serait un processus évolutif. Le verset 5 nous dit avec emphase, « Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » C'est une traduction littérale de l'hébreu. Pas un milliard d'années, un jour. Un cycle de lumière et d'obscurité, le soir et le matin. Et la création est lancée. J'ai hâte que nous abordions le deuxième jour, la semaine prochaine. Le poète anglais du nom de John Dryden, très imaginatif, a écrit une chanson pour le jour de la Sainte-Cécile. Il l'a écrit, je pense, vers 1687. Et cette chanson, magnifique chanson sur la création, a été plus tard mise en musique par George Frédéric Handel. Je laisse la musique de côté et je vous lis les paroles. C'est ce que John Dryden a écrit, très inspiré sur la création. Lorsque la nature, sous un tas d'atomes, se tordit et ne pouvait pas lever la tête, on entendait du haut la voix mélodieuse. « Lève-toi, tu es plus que mort, puis le froid et le chaud, l'humidité et la sécheresse, afin de naître, obéir à la musique. De l'harmonie céleste, cette trame universelle a commencé, d'harmonie en harmonie à travers toute la gamme des notes qu'il a jouées. Le diapason s'est achevé avec l'homme. Là où repose le pouvoir sacré, les sphères commencèrent à se mouvoir et chantèrent les louanges du grand Créateur à tous les bienheureux. Ainsi, à la dernière et terrible heure, ce spectacle décadent sera terminé. La trompette sera entendue depuis les cieux, les morts vivront, les vivants mourront, et la musique ouvrira le ciel. C'est époustouflant, mais c'est comme ça que ça se passera. Cette glorieuse création, corrompue par la chute, à cause de cette corruption, sera un jour recréée, et alors un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés, qui ne connaîtront plus jamais la corruption. Nous avons vécu en ce monde, et bénis par Dieu. Nous vivrons dans le prochain. Père, merci pour le pouvoir de ta parole, pour sa clarté. Nous te remercions pour cette explication simple de la façon dont tout a commencé le premier jour. Il y a seulement quelques milliers d'années, lorsque tu as créé la lumière par ta parole et as fait le premier pas vers la création de l'univers et de la terre, comme nous la connaissons aujourd'hui. À toi toutes les louanges. Tu es notre Créateur. Tu as créé tout ce qui a été fait, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans toi. Je te remercie de créer, et de créer afin que tu puisses donner à l'homme un monde où vivre, afin que tu choisisses en son sein une épouse pour glorifier ton Fils. Nous te remercions pour cette détermination sans faille à la création. Nous te remercions de nous avoir intégrés à ta création. Nous sommes remplis d'admiration et de louanges, et nous te remercions pour notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.